Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, il est relativement facile de cantonner l'interprétation de cette parabole à la seule question de l'orgueil religieux, voire à la juste posture à adopter dans le seul cadre de la prière. On est très proche du texte et cela paraît suffisant. Mais voyez, si ce commentaire classique reste valable, il fait malheureusement peu de cas de la précision de l'évangéliste Luc qui indique que Jésus a donné cette parabole à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Saint Luc le précise, comme s'il voulait nous prévenir de cet écueil réducteur. En vérité, il faut admettre, je crois, que le Seigneur dénonce ici une attitude plus largement adoptée. Les pharisiens du temps de Jésus en demeurent les représentants privilégiés, n'en doutons pas. Mais cette attitude, elle se rencontre en tout temps et bien au-delà du seul cadre religieux. Le pharisaïsme, cette prétention à voir et à savoir. J'irais même jusqu'à penser que le pharisaïsme, en tant que maladie de l'esprit, c'est une façon de penser qui évolue à la façon d'un virus mutant. Et en 2002, voyez-vous, je le verrais bien en d'autres lieux, ou plutôt en d'autres temples que ceux de la chrétienté, pour tout vous dire, où les premiers rangs ont plutôt tendance à être dégarnis en général. Je nommerai la version contemporaine de cette conviction d'être juste et de mépriser les autres, le pharisaïsme 2.0. Et je vous propose de nous arrêter un instant sur cette mutation des temps modernes avant de repérer l'antidote spirituel que Jésus nous prie d'accepter, de nous appliquer. Le pharisien du troisième millénaire naissant, mais déjà décadent, se définit immanquablement comme un incroyant. Assurément, il n'en est pas un. Il s'est confessé un athéisme très dogmatique, voire sectaire, et son univers mental, même s'il s'en défend, est peuplé de nombreuses croyances, très nombreuses. Et puis c'est même un pratiquant qui sacrifie tous les jours à ses faux dieux, ou du moins à cette idole qui est le monde, chers amis, le monde. C'est au monde qu'il sacrifie, c'est lui qui l'écoute, c'est à lui qu'il fait allégeance, à qui il obéit docilement. Et vous voyez, cette religion du monde n'a pas de temple public, mais équipe tous les citoyens du monde pour qu'ils puissent s'adonner au culte de façon permanente au moyen de petits temples, de poches lumineux, vibrants, oratoires miniatures dont chacun est désormais doté pour écouter le monde et où les fidèles abonnés reçoivent des instructions continues à force de notifications, de messages. C'est comme si le vieux rêve du Laos pérennis, de la prière perpétuelle, se réalisait en ces temps qui sont les derniers et au profit des idoles. Comme dans la parabole, les plus zélés se tiennent au premier rang de ces temples, en tête de followers, c'est-à-dire des disciples. C'est bien nos religions. Abreuvé d'informations, de messages, le pharisien 2.0, il a l'impression de tout savoir, de tout connaître dans l'instant. Et il fait ce qu'il faut pour sauver le monde. Chacun est un sauveur du monde. Dressons l'oreille pour percevoir le murmure de la prière qu'il susurre, l'oreille collée à son mobile. « Chère Gaïa, planète bleue, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont pilleurs, pollueurs, égoïstes, ou encore comme ce non-vacciné qui bosse dans mon service. Je suis végane et je donne à la fondation qui lutte contre le réchauffement climatique. » Bon, je pourrais continuer. Aucune démonstration, et surtout pas celle des faits, ne saurait le faire changer d'avis. Il a parfaitement intégré, intériorisé les professions de foi de son siècle. Le monde s'enflammerait sous ses yeux, qu'il considérait les mythes les plus irrationnels comme plus convaincants. il croit fermement, il est très sincère à la surpopulation. Si, si, il y croit. À cette nécessité de détruire les frontières pour vivre dans l'harmonie. On a vu ce que ça avait donné cette semaine, c'est convaincant. Au salut par les éoliennes. À la légitimité de tuer un enfant dans le ventre de sa mère si sa vie n'en vaut pas la peine. Ou de permettre le suicide assisté des plus souffrants, qu'on peut supprimer par amour. C'est pour son bien. Il est parfaitement sincère quand il pense devoir s'abstenir d'accueillir la vie par amour de la vie. Il est persuadé que le sexe, puisqu'on lui répète maintenant dès la maternelle, n'est qu'une construction culturelle, que bientôt les hommes pourront être enceints et épouser leurs animaux de compagnie. C'est juste une question de temps. Tout ce qui est possible est bon. Si c'est possible, c'est que c'est bon. Toute évolution est un progrès. C'est jamais une régression. C'est pas possible, la régression. C'est pas possible. L'institutrice lui enseignait déjà à la maternelle et les 5 heures de Netflix qu'il s'offre chaque nuit en guise de lecture spirituelle achèvent de formater son esprit. Frères et sœurs, combien de drames faudra-t-il encore? Combien de victimes, d'innocents sacrifiés pour que le pharisien 2.0 se réveille de son hébétude religieuse? C'est difficile à dire. Devant chaque drame, il ne manque pas de dire « Le temps est à l'émotion, au recueillement et au deuil. Allumons des lumignons et pleurnichons, mais ne jugeons pas. On ne sait pas. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Pas de récupération politique. » Vous voulez dire pas de récupération de la raison, tout simplement, de la réflexion. Pourquoi le temps ne serait pas à la réflexion et à l'action? Combien de chocs seront nécessaires pour prendre conscience que ce monde faussement ouvert et tolérant, faussement, devient un enfer qui l'aura bientôt lui-même englouti? Se réveillera-t-il avant qu'on vienne lui-même le surprendre dans quelques exercices de dévotion numérique pour lui couper la tête de façon non virtuelle? Comment le faire revenir sur Terre, si ce n'est en l'invitant à en détourner son regard de son monde imaginaire, de ce métavers pathétique qui jette le vrai monde dans une réalité dramatique? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous prescrit l'antidote, le publicain. Lui se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Ici, pas besoin de mise à jour de la formule qui ne saurait perdre de son efficacité. C'est plutôt la mise à jour qui a besoin de la formule que la formule de la mise à jour. Cette formule, ces paroles que Jésus met dans la bouche du publicain sont excellentes et demeurent valables pour se renouveler, pour reprendre contact avec le réel. Oui, le retour au réel implique la reconnaissance de nos fautes. La barbarie qui prévaut désormais en France ne s'est pas installée sans ton consentement. Si les lâches sont aux commandes, ils te doivent peut-être leur élection. Tu habites dans l'un des pays les plus bénis de toute l'histoire du christianisme, et le voici qui est devenu un terrain de jeu islamiste et sataniste. Tu as raison de pleurer, ta petite sœur, mais tes larmes sont celles de la lâcheté si tu ne combats pas le diable, si tu ne t'engages pas dans le combat spirituel, si tu laisses l'injustice prospérer. Que fais-tu, au fond? Ton indignation est parfaitement inutile si elle ne se fait pas prière et action. Prière humble, certes, mais prière lucide et déterminée. Jésus nous a appris le combat spirituel. Sa sainteté sans égale le dispensait d'intercéder en sa propre faveur. Il prit sur lui tous nos péchés et sa supplication s'éleva jusqu'en son dernier souffle sur la croix pour délivrer tous les hommes du mal, du péché et du diable. Et Jésus nous a révélé combien le fait de tout devoir au Père, loin de nous humilier, était une source de joie pour les hommes, car rien n'est plus consolant, plus exaltant que la vérité, y compris la vérité de dépendre de celui qui nous a créés de celui qui veut nous sauver. Chers amis, l'antidote du pharisaïsme, quelle que soit sa version, c'est la sainte humilité qui passe par un retour au réel. La révolte des humbles, c'est la sainteté. Elle consiste à se tourner vers le vrai Dieu, non celui qu'on se serait figuré ou qui nous arrangerait, mais celui qui est la vérité même et devant lequel on est moins tenté de se prendre nous-mêmes pour un Dieu. Quand saint Paul écrit à Timothée, vous l'avez entendu en deuxième lecture, quand il écrit qu'il a mené le bon combat de la foi, achevé sa course et gardé la foi, quand il déclare qu'il n'a plus qu'à recevoir la couronne de justice du seul juge qui est le Seigneur, il ne manque pas d'humilité. Il rend grâce au Seigneur, à qui il sait tout devoir. Le Seigneur, lui, m'a assisté, il m'a rempli de force, arraché à la gueule du lion, à lui la gloire. Son bilan est une action de grâce. Frères et sœurs bien-aimés, le massacre des innocents ne cessera que si quelques disciples du seul Sauveur consentent à se lever enfin. Où sont les hommes ? À rompre avec le pharisaïsme 2.0, qui est essentiellement un aveuglement spirituel, un déni du réel, une folie meurtrière. Jésus cherche des cœurs humbles et pénitents pour les remplir de la force de son esprit. Il cherche des amis pour défendre les petits qui seront toujours les premières victimes de la folie diabolique. Jésus est en quête d'âmes assoiffées, affamées de vraie justice. Il ne se lasse pas de les chercher dans les vrais temples qui sont les églises consacrées. Et plus profondément, en celle-ci, il cherche les âmes fidèles et priantes, régénérées par le sacrement du Saint-Baptême, de la réconciliation, nourries de son corps et de son sang, et ainsi disposées à travailler pour que son règne arrive. Amen.